France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. L'étape du jour avec un invité central pour vous faire partager un site très utile, voire indispensable si vous recherchez des initiatives proches de chez vous, tombe à point, puisqu'aujourd'hui se tient la deuxième journée à Paris du Salon France Attractive, salon ouvert depuis hier au Palais Brongniart et qui est sorti depuis quelques années d'une sorte de confidentialité. Il a modifié son nom. Avant, il s'appelait Parcours France, et puis ça a duré en passant d'une journée sur un petit espace de Champéret à deux journées pleines dans l'ancienne bourse parisienne afin de répondre aux attentes des habitants d'Île-de-France tentés par une nouvelle vie en région. Certaines disent encore en province, terme que je n'affectionne pas vraiment. Enfin, tant pis. Une centaine d'exposants provenant de toutes les régions sont présents pour vous proposer des opportunités d'installation et de travail hors de la région Île-de-France. Franceattractive.com pour l'adresse. Donc aujourd'hui, nous ouvrons cette édition sur une carte interactive des initiatives en France.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Édouard Marchal, bonjour.
Bonjour.
J'ai rencontré quelqu'un de votre équipe il y a quelques mois qui me transmet un feuillet, tiens, bien intéressant, je lis Transiscope. Transiscope, le portail web des alternatives. Il y a eu beaucoup d'expériences menées sur la création de plateformes regroupant toutes les informations. Certaines ont avorté très rapidement, d'autres continuent à vivoter. Qu'est-ce qui est la force de Transiscope avant d'entrer dans le détail ?
Ah bah c'est le collectif. C'est évident. Je crois que la grande différence par rapport à tout ce qui a pu être fait, c'est que c'est pas une expérience isolée. C'est 12 organisations qui se réunissent, dont des grosses comme Alternativa ou le mouvement Colibri, et qui se disent, bon, bah, on a plein de données sur la transition, on a des cartographies existantes, comment est-ce qu'on peut faire pour tout mettre en commun, pour éviter, en fait, aux gens de devoir aller sur plein de petites cartes différentes, quoi. Donc, le collectif faisant foi, ça a fonctionné, tout simplement.
Et aujourd'hui, vous en êtes à quel stade?
Alors là, on est, d'un point de vue quantitatif, on a un peu plus de 20 000 données sur la carte avec 12 sources différentes, et donc l'objectif en fait donc de cette carte, c'est voilà, d'agrémenter le plus possible de données, enfin de sur la transition qui sont présentes sur des cartographies ou sur des bases de données que les associations ou les collectifs ou les toute organisation peuvent avoir sur une carte unique. Donc à terme, on aimerait que toutes les solutions qui parlent de la transition soient présentes sur la carte.
Ouais, et comme nous traversons une partie de la Bretagne, j'ai vu que des organismes vous rejoignaient qui avaient déjà regroupé et collecter des informations sur leur territoire, comme Bretagne Créative, qui vient de vous rejoindre.
Exactement, ouais, exactement. C'est vraiment une volonté de, à la fois, pouvoir travailler avec des organisations nationales, mais surtout avec des organisations locales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme Bretagne Créative, il y a des organisations locales qui ont déjà fait finalement des transiscopes régionaux. Donc, nous, tout simple, on prend leurs données, on le met avec le reste, et ça donne une carte nationale qui va mettre en avant de la plus petite alternative à la plus grande, quoi.
Alors, je vais vous poser des questions qui nous intéressent grandement, parce qu'on est en quête aussi d'une organisation de données à partir des carnets de campagne. Alors je vois, la première question c'est comment établir des domaines sans créer une profusion au risque de se perdre sur la carte? Comment créer des domaines qui peuvent recouvrir tout ce qui relève des alternatives aujourd'hui, entre autres en France?
Ouais, ça a été un casse-tête un peu effectivement de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Bon, déjà de fait, c'est assez rare qu'une seule alternative ait un seul domaine. En général, c'est peut-être de l'alimentation, mais c'est aussi de l'économie solidaire, sociale et solidaire. Ou c'est peut-être de la mobilité, mais c'est aussi de l'alimentation parce que ça fait partie de... Donc voilà, on qualifie avec plusieurs thèmes une alternative. Et alors on a gardé une espèce de synthèse de toutes ces cartes qu'on a trouvées. Si vous voulez, on a fait ce travail qui a été quand même très long, ça a mis 2 ans à comprendre un peu comment est-ce que la transition aujourd'hui se vivait, qu'est-ce que les gens cherchaient finalement, en regardant les cartographies, en regardant les bases de données. Et finalement voilà, on a créé cette nomenclature à partir de ça, avec des grandes thématiques qui elles-mêmes ont des sous-thématiques. Par exemple voilà, on a autant de l'éducation que de l'alimentaire, enfin en tout cas de la...
Je regarde les domaines qui apparaissent dès qu'on va sur le site transiscope.org. Écologie, alimentation, énergie, ensuite culture, médias, liens sociaux, citoyenneté, droit, solidarité, éducation, formation, bien-être physique et personnel, mode de déplacement, habitat et urbanisme, économie sociale et solidaire. Pour prendre la dernière qui nous concerne assez régulièrement, même très régulièrement, on va dire, mais dedans il y a l'emploi par l'insertion, les structures d'insertion par l'activité. Ça fait des sous-ensembles. Ouais. Là, à nouveau, il y a le risque de confusion.
Il y a le risque de confusion, ouais. Cela dit, Tout ce qui est programme, par exemple, aujourd'hui n'existe pas forcément sur la carte. En général, nous, c'est des lieux physiques surtout qu'on a. Donc, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, on va avoir plutôt des coopératives physiquement représentées par des adresses. Donc, ça va être, par exemple, Artisans du Monde, qui sont un collectif qui travaille avec des bénévoles pour promouvoir le développement de l'économie solidaire. Voilà, eux, c'est des lieux physiques où on peut aller. Donc, on peut pas avoir tous les programmes de l'ESS sur cette cartographie. Donc, en fin de compte, on s'y perd pas tellement puisque l'entrée, c'est la géographie, quoi. C'est le terrain, c'est le physique. Donc, a priori, pour l'instant, personne s'est plaint de s'être perdu dans ces données-là, quoi.
Alors, après, il y a effectivement la deuxième question dans l'organisation, c'est la géographie. Est-ce qu'on fait région par région ? Comment représenter cette profusion d'alternatives ?
Alors, on a peut-être, je ne sais pas, une centaine de bases de données intégrées aujourd'hui. Et pour l'instant, on les fait tout simplement d'ordre chronologique parce que les premières sont arrivées, on les a intégrées et en fait, on n'essaie pas de se dire d'abord la Bretagne avant l'Est, c'est plutôt que la Bretagne créative, par exemple, on en parlait, est venue à nous et donc on les a intégrées maintenant. Ça prend du temps, c'est une technologie très compliquée qu'on a mis en place. Chaque base de données déjà doit passer un peu à la moulinette de notre charte et ensuite, il faut pouvoir les intégrer physiquement. Il faut que ça fonctionne aussi derrière, donc ça prend du temps. Mais à terme, toutes les bases de données qui sont en attente seront intégrées et en fait, les régions vont être de plus en plus étoffées parce que des Bretagnes créatives, il y en a d'autres en France, quoi.
Édouard Marchal, invité des carnets de campagne. Édouard fait partie de l'équipe de Transiscope, cette communauté d'agitateurs et de collecteurs d'informations alternatives, dont Alternativa, mais il y en a d'autres qu'on pourra citer d'ailleurs. Pour Transiscope, le portail web des alternatives, le site transiscope.org. C'est bien de le rappeler parce que vous allez trouver de quoi répondre à vos questions, des questions, Édouard, on en a souvent, de personnes qui disent on veut quitter par exemple notre région, ou on veut sortir de notre grande agglomération, trouver un coin de campagne sympathique. Est-ce qu'il y a des régions plus propices à créer des alternatives de vie que d'autres ?
Alors, tout dépend ce qu'on recherche, forcément.
C'est pas bien comme question, parce que non, ça veut dire, voilà, il y a pour et contre.
Bon, il y a un constat, c'est qu'autour des grandes villes, aujourd'hui, il y a plus de données. Ça, c'est évident. Dès que vous vous approchez voilà, de Nantes, de Lyon, de Marseille, de Lille, de Paris, il y a clairement plus de données, parce qu'il y a plus d'acteurs économiques, on va retrouver beaucoup plus d'AMAP, par exemple, on va rencontrer voilà, beaucoup plus de SEL aussi, donc les systèmes d'échange locaux, parce que plus de gens égale plus d'alternatives. Cela dit, on voit quand même que en région, petit à petit, il y a des bulles qui apparaissent, donc ça veut dire qu'elles arrivent aussi à être connectées, parce que ça, c'est aussi un enjeu, mine de rien. C'est dans les villes, il y en a beaucoup, mais parce que c'est aussi des personnes qui sont très connectées. Se retrouver sur une cartographie, c'est pas anodin, il faut faire cette démarche d'aller sur Internet et de s'inscrire, donc c'est normal aussi que dans les zones un peu plus rurales, ça soit un peu plus complexe d'y accéder. Mais en tout cas, ça commence à émerger et je dirais que tout l'Ouest est très représenté. Clairement, en termes d'alternatives, c'est vraiment un beau bouquet qui arrive. Il y a le centre.
Amis de l'Est de la France, réveillez-vous, agitez-vous.
Ouais. Non, mais dans l'Est, il y a des choses qui se passent. C'est vraiment pas... ils sont pas seuls non plus.
Comment garantir la qualité des informations et le bien fondé des initiatives que vous allez mettre en ligne ?
Donc on a cette charte qu'on a fondée où en fait on a un certain nombre de points pour pouvoir faire rentrer la personne, la structure en l'occurrence. Du coup, un des fondamentaux, c'est cette notion de commun. On veut et on souhaite que les organisations qui nous rejoignent soient dans cette idée de préserver des ressources de manière commune. Donc une ressource, ça peut être une ressource culturelle, c'est pas forcément une ressource physique. Donc agissent pour les communs et ça marche aussi dans leur manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'on prend, on travaille avec des coopératives, on travaille avec des associations, on travaille avec des collectifs. On peut travailler avec des entreprises aussi, mais a priori, il y en a assez peu. Disons qu'on ne veut pas que ce soit du privé, on ne veut pas que ça appartienne à quelqu'un. On veut vraiment que ce soit des personnes qui font la transition et des personnes justement qui sont indépendantes de leurs décisions. Et ça, c'est les structures qui travaillent avec nous. Donc, pour qu'une une source se retrouve sur notre carte, il faut d'abord qu'elle ait été elle-même créée par une association, un collectif, voilà, une coopérative. Et ensuite, qu'on travaille avec eux. Et donc là, on la met sur la carte.
Ouais, et comment assurer donc la mise à jour régulière, le plus régulièrement possible, parce que vous avez des milliers de visites par jour aujourd'hui, donc vous intéressez parce que vous êtes une source d'information qui peut devenir inépuisable, sauf qu'il y a des sujets qui s'étiolent, qui disparaissent, des initiatives qui disparaissent, c'est comme la vie.
Ça, c'est l'enjeu majeur, je pense, pour ce projet, effectivement, la mise à jour. Donc la mise à jour, elle est automatique grâce au système en fait que les développeurs ont créé. Donc je rappelle que c'est un projet qui est tout à fait, qui utilise des technologies open source. C'est des cartographies qui sont disponibles gratuitement. Donc Donc effectivement, l'enjeu là-dessus technologique, c'est de mettre à jour automatiquement les données qui elles-mêmes sont sur d'autres cartes. Et c'est là où parfois effectivement on a des soucis, parce que à partir du moment où la base de données originelle respecte la charte, on dit ok, mais c'est vrai que parfois il y a des débordements et il y a des débats qui se mettent en route. Mais cela dit, c'est intéressant en fait, vous voyez, de savoir par exemple, est-ce qu'on peut mettre tous les magasins bio ou pas sur une carte comme ça. Nous, on a fait le choix que non. Les seuls magasins bio qui existent, c'est Biocoop aujourd'hui, parce qu'on estime que le reste ne font pas partie justement de ces communs. C'est des initiatives très intéressantes, hein, La Vie Claire par exemple, pour ne citer que, mais pour nous, c'est pas ça qui fait la transition. Donc du coup, on est vigilant à ce niveau-là. On a des retours constamment en fait de citoyens qui nous disent « Ah, mais cette initiative-là n'existe plus ». Donc là, la difficulté, c'est d'aller savoir de quelle source elle vient pour pouvoir corriger sur la source d'origine. Des fois, c'est un peu complexe.
Ça fait double vérification.
Ça fait une double vérification. Mais en fait, avec la vigilance de tout le monde, globalement, pour l'instant, elle est plutôt à jour, cette carte, quoi.
Édouard, il y a des initiatives qui naissent aussi en Europe. Vous avez un coup d'œil sur les voisins européens ?
Alors oui, une des principales données de l'extérieur, c'est le CRID, donc cette association qui est plutôt sur la solidarité internationale. Donc là, on va avoir plutôt des collectifs représentés en Europe, même partout dans le monde. Hein. Il y en a aussi en Amérique latine. Alors quand vous regardez la carte, c'est quand même essentiellement en France, mais en Europe, oui. Alors après, pour l'instant, on se concentre beaucoup sur la France parce que on veut d'abord que la technologie soit fonctionnelle, que les gens l'utilisent, qu'on ait des retours aussi d'expérience pour améliorer le système s'il faut l'améliorer, avant de pouvoir commencer à s'étendre en Europe et se dire bon bah on connaît hein, les collectifs européens qui eux-mêmes collectent leurs données aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais est-ce qu'on veut aussi créer un monstre unique pour toute l'Europe ou pas, ça c'est à voir. En tout cas, la France, voilà, pour l'instant on travaille dessus, quoi.
Ouais, et puis peut-être un jour, rêvons, il y aura aussi les initiatives brésiliennes après Bolsonaro. Vous en êtes à la version 2, donc il y a un développement de ce portail web des alternatives. Je rappelle, le site c'est transiscope.org. Merci Édouard.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
Un mot sur l'Aveyron, même deux, et en particulier à Villefranche de Rouergue, l'Aveyron qui est le fil rouge de la semaine. Il y a beaucoup de cafés associatifs qui naissent. Tous ne se ressemblent pas, même si leurs créations sont motivées par une volonté de fabriquer du lien et de partager des services dans les quartiers des villes ou dans les communes rurales. Donc je prends aujourd'hui pour illustration le cas de l'association des haut-parleurs, fondée en 2010, créatrice deux ans plus tard du café de Villefranche de Rouergue, au cœur du quartier prioritaire de la ville de Bastide. Ce café culturel associatif a obtenu l'agrément espace de vie sociale. Il présente l'originalité de s'organiser autour de la participation directe de ses adhérents à l'organisation. Autrement dit, tout le monde peut créer son événement. C'est une coquille vide, et, comme l'écrit Julie, coordinatrice de l'association, une coquille à remplir par tous. Il y a par exemple des soirées DJ toi-même, donc vous pouvez animer en musique la soirée, ou vous pouvez apporter votre menu au restaurant léoparleur.com pour l'adresse. Et à Villefranche encore, ça c'est une initiative qui permet de défendre le commerce, l'artisanat, les services de proximité et surtout la vie des centres-bourgs à peu de frais. L'association s'appelle Commerces en Bastide. Elle a inventé un objet de fidélisation qui est Basticado, un chèque cadeau utilisable dans 80 commerces du quartier. Et en un an, le dispositif a généré un apport de plus de 80 000 euros, la réussite du principe récompensée par la médaille d'or du concours national Les pros ont du talent a été rendue possible grâce au soutien de la communauté de communes qui a mis à disposition de l'équipe un local, une animatrice de réseau et l'ingénierie des services de l'intercommunalité. Ça coûte 10 euros le chèque cadeau, et puis alors, la pub qui est faite autour, c'est la solution pour remercier un proche, récompenser des salariés ou faire plaisir aux collaborateurs de votre entreprise ou de votre collectivité. commerceenbastide.com pour l'adresse. Je rappelle que la semaine prochaine, nous serons dans le Tarn-et-Garonne et que nous prenons toujours des infos concernant ce département, la Somme, l'Oise et le Val d'Oise.